Le journal avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, nous reviendrons sur cet inimaginable qui s'est produit hier à Washington, jour où le Congrès devait avaliser officiellement la victoire du démocrate Joe Biden. Une insurrection qui s'est soldée par le décès d'une femme et de trois autres personnes. Ce matin, Donald Trump, accusé d'avoir galvanisé ses militants, apparaît de plus en plus isolé. Nous serons dès le début de ce journal à Washington et recevrons Paul Ryan, le président de l'antenne française du Parti républicain américain.
Alors que chaque jour bat le record de la veille, la région de Tokyo va être de nouveau placée sous état d'urgence en raison d'une augmentation inédite de cas de Covid-19 dans l'archipel, Thomas.
Nous irons également en Suède où les autorités ont opté pour un nouveau revirement de leur stratégie atypique et controversée face au coronavirus. Et puis, nous intéresserons à la situation en France où le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé Olivier Véran tiendront cet après-midi une conférence de presse pour tenter à nouveau de défendre la stratégie vaccinale du gouvernement. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Le désir, nouveau nom, nouveau visage de l'amour, quelles sont ces métamorphoses? La période que nous vivons servira-t-elle d'accélérateur à ces changements? Nous en parlerons avec notre invité, l'essayiste Belinda Cannon, auteur de « Le nouveau nom » de l'amour, c'est chez Stock.
Se peut-il que les scènes inimaginables vues hier à Washington décrivent bien la capitale de la première puissance mondiale? Rarement la sidération avait autant saisi l'Amérique, encore sous le choc ce matin après l'invasion la veille du Capitole, temple de la démocratie, par des centaines de partisans de Donald Trump, interrompant ainsi la session du Congrès, laquelle devait confirmer la victoire du président élu Joe Biden. Alors évidemment, après une mandature que l'on qualifiera à minima de tumultueuse, nombreux sont ceux à considérer que cette fin de règne crépusculaire n'est au fond que l'épilogue tristement logique de 4 années, nourrie de contre-vérités parcourues par l'aveuglement. Restent toutefois ces images aussi invraisemblables que violentes à l'intérieur du majestueux bâtiment situé au cœur de la capitale fédérale et qui marqueront d'une pierre noire l'histoire de la démocratie américaine. Mais avant d'évoquer donc les conséquences possibles de l'ultime coup de force d'un milliardaire aux abois, notons tout d'abord que ce qui était censé être une simple formalité avant de tourner à l'insurrection comprenait la certification de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, a fini par être confirmée au milieu de la nuit. C'est une correspondance à Washington signée Gregory Phillips.
3h42 du matin, dans une capitale fédérale sous couvre-feu, au Capitole, le vice-président Mike Pence, enfin, certifie le résultat de la présidentielle du 3 novembre. Joe Biden l'emporte avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. Applaudissements dans cet hémicycle qui, quelques heures plus tôt, était envahi par des manifestants et duquel les représentants et sénateurs avaient dû être évacués. Cette certification des résultats était la dernière étape de ce processus électoral. Le 20 janvier à midi, Joseph Biden deviendra bien le 46e président des États-Unis et Kamala Harris sa vice-présidente. L'aumônier du Sénat, Barry Black, conclut cette folle journée par une prière. Nous déplorons que ce bâtiment du Capitole ait été désacralisé, le versement de sang innocent, la perte d'une vie et ces dysfonctionnements qui menacent notre démocratie.
Alors hier soir, après plusieurs heures d'extrême tension qui se seront soldées par la mort de 4 personnes, mais aussi la découverte de 2 bombes artisanales au siège du Comité national républicain et du Comité national démocrate, les militaires de la Garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme. Peu de temps avant, Joe Biden, lors d'une allocution au ton grave, avait lui appelé Donald Trump à s'exprimer à la télévision pour réclamer la fin de cette insurrection. Et en guise d'allocution solennelle, eh bien, ce dernier se sera contenté de quelques tweets et d'une brève vidéo appelant certes à ses partisans de rentrer chez eux, mais en invoquant une nouvelle fois une élection volée, au point d'ailleurs que Twitter et Facebook ont dû prendre des mesures sans précédent en bloquant temporairement les comptes du président sortant. Mais surtout, l'onde de choc qui s'est propagée à travers tout le pays a été telle que certains à Washington, parmi les membres du gouvernement, évoqueraient désormais la possibilité d'invoquer le 25e amendement de la Constitution afin d'écarter le président républicain en le déclarant inapte à exercer ses fonctions. Loïc Laury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Washington. Donald Trump peut-il aujourd'hui rester en place, Loïc, jusqu'à son départ officiel de la Maison-Blanche fixé au 20 janvier prochain ?
Eh bien, on se dit finalement que c'est l'option la plus logique, hein. Moins de 2 semaines d'attente après 4 ans d'une telle présidence. Le 20 janvier, Joe Biden doit être intronisé. Donald Trump devra quitter la Maison-Blanche ce même jour. La Constitution est formelle sur ce point, d'autant plus que Donald Trump, presque muet après la suspension de son compte Twitter, s'est fendu d'un communiqué pour admettre que sa présidence touchait à sa fin et pour promettre surtout une transition ordonnée du pouvoir, des mots à peine croyables dans sa bouche. Et puis, il y a l'option atomique évoquée par certains médias, donc ce 25e amendement. Qui sait ce dont Donald Trump est capable en 13 jours? Autant l'écarter du pouvoir le plus vite possible. Cet amendement permet en effet de déclarer que le président est inapte à exercer. Mais pour cela, eh bien, il faut que le vice-président Mike Pence et une majorité de membres de son cabinet se mettent d'accord. Les discussions, en tout cas, existent. C'est le site Axios, notamment un site politique très sérieux qui l'affirme. Des membres du département d'État poussent pour cela. Encore faut-il étudier cette option explosive et très rapidement. Quel impact sur le parti, quel impact sur les partisans de Donald Trump et sur l'image que renverra ensuite le président, héros peut-être ou martyr. Ce qui est sûr, c'est que si Donald Trump n'a pas arrêté ces 4 dernières années de franchir des lignes rouges, le coup de force d'hier a rendu furieux jusque parmi ses plus fidèles chez les Républicains.
Merci Loïc Loury en direct de Washington. Et pour continuer d'évoquer les incidents d'hier, invité aujourd'hui de la rédaction, Paul Rhin, président de Republicans in France, l'antenne française du Parti républicain américain. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dès hier, George W. Bush, le seul donc des prédécesseurs républicains de Donald Trump encore en vie, a dénoncé des scènes de chaos dignes d'une république bananière. De son côté, Barack Obama a jugé que ces violences étaient un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. Comment vous qualifieriez les scènes d'hier ?
Oh, c'était la honte, c'est sûr. C'était un désastre de qu'est-ce qui se passait dans la capitale hier. Et tous les républicains sont fâchés avec ça. Donc, nous condamnons la violence dans les mesures les plus fortes possibles. Toute la violence. Et ça, la pénétration de l'intérieur de la capitale, la violence, était complètement contre tous les principes de le Parti républicain, qui est toujours pour la paix, pour les manifestations pacifiques que on a fait pendant tous les dernières 4 ans du mandat de Donald Trump. On a fait énormément de manifestations pacifiques. Et malheureusement, il y avait 100 de gens qui étaient trop en colère et ils ont fait les choses pas acceptables.
Alors ce matin, Donald Trump a promis une transition ordonnée lorsqu'il cédera la présidence des États-Unis à Joe Biden le 20 janvier prochain. Au-delà du caractère, disons, cocasse de l'emploi du terme « ordonné », Donald Trump a précisé qu'il était en total désaccord avec le résultat de l'élection, ajoutant même que les faits lui donnaient raison. On évoquait à l'instant cette possibilité pour Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution. Diriez-vous que celui qui occupe toujours la Maison-Blanche, qui n'aura cessé de jeter de l'huile sur le feu, est inapte mentalement ?
Inapte s'il reste dans la Maison-Blanche ?
Actuellement.
Non, tous les démocrates ont menacé avec le 25e amendement depuis 4 ans, depuis que le jour après son élection en 2016. Donc ça, c'est pas nouveau.
Il n'y a pas de folie destructrice de la part de Donald Trump.
Non, ils ont dit que ils acceptent la confirmation des électeurs et les grands électeurs, et il va faire une transition pacifique, normale. Il a voulu une grande manifestation hier, mais une manifestation pacifique. Il n'a jamais demandé pour la violence. Et le moment qu'il y avait des violences, il a dit arrête. Arrêtez-vous.
Selon lui, il n'est pas responsable de cette violence.
Non, à mon avis, non. Il n'est pas responsable. Que les gens qui ont créé la violence sont responsables pour la violence. Mais on condamne la violence. Donald Trump a voulu une grande...
Quand il promet une surprise pour ce 6 janvier, pour cette journée d'hier, à quoi faut-il s'attendre, sinon à ces...
Il a voulu une grande manifestation pacifique pour essayer de motiver les membres du Congrès républicain à continuer à se battre dans une procédure légale contre les confirmations des les grands électorats. Donc, il y avait Senator Cruz qui essaie de motiver plusieurs sénateurs républicains, pas pour annuler tous les votes, mais pour demander 2 semaines d'un audit des votes dans les États disputés. Donc, parce que le grand colère aux États-Unis, la raison pour le grand colère dans les 75 millions républicains qui ont voté pour Donald Trump est qu'il y avait de fraude, c'est sûr. C'était une question de combien de fraude. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 175 millions de votes en total. Ça, c'était le plus haut jamais en histoire. Mais plus de 60% étaient les votes par correspondance. Plus de 100 millions de votes par correspondance. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Non, évidemment, il y avait des fraudes. C'était une question combien de fraudes. Et le grand colère était que...
Pourquoi, selon vous, vous dites évidemment, il y avait des fraudes?
Pourquoi il n'y a pas vote par correspondance en France?
Là, en l'occurrence, s'agissant des États-Unis, le vote par correspondance, disons, a été encouragé à cause de la crise sanitaire. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent.
Oui, mais il n'y a pas vote par correspondance en France depuis toujours, parce que les Français savent que ça crée des opportunités pour la fraude. Ça, c'est pourquoi. Et il y a des vérifications d'identité en France. Il n'y a pas, ça n'existe pas aux États-Unis. Dans les États bleus, on dit, les États démocrates. Donc, tous les deux ensemble, créent la fraude. Mais le problème et la colère viennent de, après novembre, il y avait un mois que l'équipe de Trump a trouvé plus de 1000 témoignages où il y a 10% vers 100 qui a voulu d'avoir il avait le courage de parler en public. Mais le cours a refusé d'entendre l'évidence. Donc, ce n'était pas juste qu'il n'y avait pas une chance pour l'équipe et les témoignages à montrer l'évidence devant le cours. Et ça, c'était pas juste. Donc, il y avait une colère.
Quoi qu'il en soit, la vraie question porte aujourd'hui donc sur ce parti républicain. Il y a à l'évidence une rupture. Donald Trump apparaît plutôt isolé. Que va-t-il pouvoir se passer à présent? Qu'est-ce que cela va laisser comme trace, selon vous?
Pardon, je n'ai pas tout compris.
Qu'est-ce qui va pouvoir se passer aujourd'hui pour le Parti républicain?
Ils vont continuer. Et ça, c'était grave. Mais c'est la violence que...
Il n'y a pas de lutte intérieure, intestine.
Évidemment, il y avait des désaccords contre les procédures légales d'hier soir. Mais non, le Parti républicain va rassembler. C'est dommage que le legacy de Trump maintenant, que avant Covid son était héritage extraordinaire, et maintenant c'est, comment dire, c'est une tache. On va se souvenir pour un moment.
L'héritage est entaché.
Héritage est entaché, merci pour le français. C'est entaché à cause de ça. Parce que, en fait, les républicains vont continuer à battre pour le principe. Républicains va rappeler les gens de toutes les bonnes choses que Trump a fait avec le fort économique, avec les accords de paix en Moyen-Orient, avec plein de choses. Mais on va oublier tout ça à cause de cette violence.
Merci, Paul Rhin, président de Republicans in France, donc l'antenne française du Parti républicain.
Merci pour l'invitation.
D'avoir répondu à notre
Merci
invitation.
Beaucoup.
Alors, un peu plus tôt dans cette journée d'hier, la consternation avait déjà saisi le camp démocrate après l'interpellation, c'était à Hong Kong, de 53 personnalités militants, anciens élus pro-démocratie, soit le dernier coup donc porté contre la dissidence depuis la reprise en main par Pékin du territoire semi-autonome. Et parce que le doute n'est plus permis quant au refus du régime chinois de tolérer la moindre opposition à Hong Kong, eh bien la communauté internationale tout entière s'est levée hier fustigeant d'une seule voix cette terrible attaque des libertés. Ce matin, le chef de la diplomatie américaine a lui-même dénoncé un outrage et réclamé la libération immédiate et sans condition de ces figures de l'opposition. Sauf qu'après les scènes de chaos à Washington, justement, tous les médias nationalistes chinois s'en donnent à cœur joie ce matin, n'hésitant pas à dresser un parallèle entre les scènes d'intrusion au Capitole et les manifestations À Hong Kong, Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et la Chine n'est pas la seule ce matin, en l'occurrence, parmi donc les ennemis jurés de l'oncle Sam, à tenter de tirer profit de ce piteux spectacle offert hier par la démocratie américaine.
À commencer par l'Iran, qui ne se prive pas de dénigrer la démocratie occidentale, qualifiée de fragile et vulnérable, mais le ton employé par le président Rouhani, généralement vu comme un modéré, tranche avec les invectives habituelles de Téhéran contre le grand Satan, terme officiel employé par la République islamique. Dans une allocution à la télévision d'État, Hassan Rouhani s'en prend certes à Donald Trump. Un populiste est arrivé au pouvoir et a provoqué un désastre dans son pays pendant 4 ans, dit-il. Mais il ajoute aussitôt « J'espère que le monde entier et les prochains dirigeants à la Maison-Blanche en retiendront la leçon. L'Iran, étranglé par les sanctions américaines et qui vient de recommencer à enrichir de l'uranium à 20%, envoie donc un message à la fois d'ouverture et d'avertissement à la future administration Biden. Il parle des États-Unis comme d'une grande nation en les appelant à revenir à leurs obligations pour leurs propres bénéfices. À Moscou, c'est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat russe qui met de l'huile sur le feu. La partie perdante a raison d'accuser les gagnants de falsification, estime sur Facebook Konstantin Kozatchev, qui déclare « Il est évident que la démocratie américaine boite des deux pieds », un commentaire dans la droite ligne de la position russe, selon laquelle les États-Unis n'ont pas de leçon de démocratie à donner. Le sénateur russe ajoute « La fête de la démocratie est terminée, elle a malheureusement touché le fond » et conclut-il « Je dis cela sans une once de jubilation ».
Merci Bertrand Galichet. En Chine, où après des mois de négociations, plutôt malgré des mois de négociations, le régime a finalement décidé de fermer définitivement la porte aux scientifiques de l'OMS censés venir enquêter sur l'origine de l'épidémie de coronavirus à Wuhan, un revirement qui témoigne, s'il fallait encore s'en convaincre, de l'extrême sensibilité de Pékin sur la question de l'origine du virus. Les autorités font tout pour entretenir le flou à ce sujet et promouvoir des théories alternatives. Au Japon, le Premier ministre a lui déclaré ce matin un nouvel état d'urgence prévu pour durer un mois et destiné à enrayer la propagation de l'épidémie. Son ampleur reste toutefois restreinte, contrairement à celui appliqué au printemps dernier dans tout l'archipel. Celui-ci devrait concerner dans un premier temps la capitale et seules 3 régions adjacentes. Autant de raisons de penser que ces résultats pourraient être limités. En l'occurrence, c'est évidemment le corollaire lorsqu'il s'agit par ailleurs d'affecter le moins possible l'économie. Les précisions de notre correspondante Karine Nishimura.
Rien qu'à Tokyo, 3000 malades Covid-19 attendent une place dans un hôpital ou un hôtel médicalisé. Certains meurent avant. L'état d'urgence est donc une nécessité saluée par les médecins. Mais cette décision ne les soulage pas totalement, souligne le président de l'Association médicale du Japon.
Nous apprécions la décision de déclarer l'état d'urgence, mais le système hospitalier est déjà à terre, dans le sens où on ne peut plus prodiguer, comme d'habitude, les soins nécessaires aux personnes qui en ont besoin. Pour le moment, l'état d'urgence ne concerne que Tokyo et 3 départements limitrophes, mais je pense qu'il faudra songer à une extension nationale.
De façon concrète, le gouvernement demande aux restaurants, bars et cafés de fermer à 20h, mais la loi ne permet pas de les y contraindre. Les serveurs d'un restaurant de curry du quartier de Shinjuku sont dépités, car beaucoup d'établissements se plaignent d'un accompagnement économique insuffisant.
On ne sait pas encore ce qu'on va faire, on attend des instructions de la direction. Mais je pense qu'on va fermer à 20h. Pour être franc, c'est vraiment compliqué.
L'explosion de l'épidémie a surpris le gouvernement qui, jusqu'à Noël, disait ne pas songer à déclaré l'état d'urgence et a même maintenu jusqu'au 28 décembre des campagnes d'incitation au tourisme intérieur. Les Tokyoïtes, eux, accueillent la décision comme une fatalité.
On n'y peut rien quand on voit le nombre croissant de malades. On n'a tous qu'une chose à faire, essayer de ne pas être contaminés.
Un mois d'état d'urgence suffira-t-il à contenir le virus? Les experts en doutent.
Le Liban va de nouveau se calfeutrer jusqu'à la fin janvier. Un nouveau confinement a été décrété aujourd'hui après que le pays du Cèdre a enregistré hier son record quotidien de contamination. Partout, les mesures pour lutter contre le coronavirus se durcissent donc, y compris en Suède. Depuis le début de l'épidémie, on a beaucoup parlé de ce pays où, pendant de longs mois, le masque n'était pas recommandé. Le pays sans obligation, le pays sans confinement, on a évoqué à juste titre une exception suédoise, mais cette exception est en train visiblement de prendre fin. C'est une correspondance signée Frédéric Faux.
À Fridhemsplan, un carrefour de bus et de métro à Stockholm, le masque a déjà fait son apparition sur le visage des usagers.
Je le mets toujours dans le bus et aussi quand je suis dans un espace clos avec d'autres personnes. Et c'est plus bondé en hiver, oui.
Je l'utilise pour me protéger et protéger les autres quand je vais au travail, si j'utilise le bus ou le train. C'est une bonne protection. Cela aurait été mieux si on avait été forcé de le porter plus tôt.
À partir de ce jeudi, les autorités suédoises recommandent le port du masque dans les transports publics, là où il est difficile de maintenir les distances. Alors il ne s'agit toujours que d'une recommandation et elle n'est valable qu'aux heures de pointe. Mais ici, c'est une première. L'autre changement, il va intervenir le 10 janvier, quand devrait entrer en vigueur une loi d'exception qui permettra au gouvernement de limiter le nombre de personnes dans les magasins, les gymnases ou les centres commerciaux, voire même de les fermer si ces limites ne sont pas respectées. Alors comme pour le masque, la mesure est encore limitée. Il n'est pas question de couvre-feu ou de confinement. Mais pour un pays qui jusqu'à maintenant se contentait de recommandations, c'est aussi un pas important. Ce qui inquiète les Suédois, c'est le nombre de personnes hospitalisées qui a dépassé les 3000, soit bien plus que lors de la première vague. Un bilan qui ne devrait pas s'améliorer avec l'arrivée de l'hiver et une vague de froid qui va s'abattre dans les prochains jours sur la Suède.
Et à quoi faut-il à présent s'attendre en France? De nouveaux couvre-feux vont-ils être annoncés? Quel calendrier sera arrêté pour la culture, la restauration, les stations de ski? Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront cet après-midi une conférence de presse où ils entendent non seulement donner plus de visibilité au secteur touché par la crise avant de prendre peut-être des mesures plus lourdes la semaine prochaine, mais aussi défendre la stratégie vaccinale du gouvernement. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Il semble surtout que l'urgence absolue aujourd'hui pour l'exécutif soit tout autant de bloquer une troisième vague et prévenir ainsi un troisième confinement que d'éteindre un véritable incendie de critiques sur son supposé manque d'anticipation.
Et ces critiques, elles viennent d'abord et avant tout de la droite, dont beaucoup d'élus locaux. LR est ouvertement pro-vaccin, contrairement à LFI et le RN, beaucoup plus réservés sur le sujet. Du coup, depuis le début de la campagne de vaccination, les Républicains accusent le gouvernement d'être trop timoré. Jean Castex va donc officiellement enclencher ce soir la vitesse supérieure en annonçant plusieurs mesures. Dès la semaine prochaine, il y aura 300 centres de vaccination hors hôpitaux et 500 la semaine prochaine. Ils vont être approvisionnés massivement par de nouveaux vaccins. Aux 500 000 doses hebdomadaires du vaccin Pfizer-BioNTech vont s'ajouter 200 000 autres, puis 500 000 mensuels du vaccin de l'américain Moderna. Mais en attendant une vaccination massive, qui n'est pas évidente, selon un récent sondage, 45% des Français n'ont toujours pas l'intention de se faire vacciner. Eh bien, en attendant, que faire? Et surtout, que dire aux professionnels des secteurs qui se meurent? Les stations de ski, les lieux de culture, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit? En novembre dernier, Emmanuel Macron leur avait donné des dates précises de possibles réouvertures. Les espoirs ont été douchés par cette nouvelle vague. Dès lors, comment offrir une perspective aux Français sans se démentir quelques semaines plus tard? La réponse de Jean Castex s'apparente à un exercice d'équilibriste bien périlleux et pas sûr que le nouveau mot du gouvernement, la visibilité, qui remplace le calendrier, pas sûr que ce nouveau mot soit un remède de nature à apaiser les angoisses des Français face à l'incertitude.
Merci Antoine Maret. Alors vous évoquiez à l'instant les espoirs douchés au sein notamment du monde de la culture et c'est la raison pour laquelle 200 artistes du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la musique ont choisi de publier ce 7 janvier, initialement fixé comme une date de revoyure, une tribunale dans le journal Le Parisien, Zabou Breitman, François Cluzet, Grand Corps Malade, Julie Gayet, tous se disent prêts à se faire vacciner, un acte citoyen, disent-ils, pour sortir de l'impasse. Anne Lamotte a joint au téléphone Stanislas Nordet, directeur du Théâtre National de Strasbourg, à l'initiative de cette tribune.
On a fait attention que ce soit pas « allez vous faire vacciner », c'est-à-dire « chacun est libre », c'est un peu « qui même me suivent », quoi, hein. C'est-à-dire c'est un peu « nous on y va », parce qu'il faut aller au-delà, on va dire, des appréhensions. Nous aussi, on en a tous, comme tout le monde, on est comme tout le monde, hein. On est artiste, mais on est comme tout le monde. Mais simplement, pour le moment, c'est le seul endroit qui nous permet d'avancer, là. C'est la seule porte de sortie qu'on entrevoit, alors autant essayer de l'emprunter. Et d'ailleurs, qui était intéressante, parce que il y avait un certain nombre de gens qui me disaient j'y aurais peut-être pas été me faire vacciner, mais maintenant que je suis dans ce mouvement-là, j'y reste, c'est certain. Donc c'est, ça, c'était assez intéressant aussi, parce que je pense que dans cette pandémie, le pire, c'est qu'on est aussi tous seuls, les uns et les autres, dans nos coins, et que toute tentative aussi de fédérer quelque chose est une tentative qui, en ce moment, est importante.
En tout cas, vous avez la voix enjouée.
En tout cas, je pense qu'il faut agir. C'est-à-dire que moi, ça me désespère quand on subit les choses. Le but aussi de cette initiative-là, c'était de se dire... allons-y, quoi. Prenons un petit peu de hauteur et puis allons-y. Moi, je suis pas un fanatique du tout des aiguilles, hein, donc mon rêve, c'est pas de me faire piquer. Je crois que c'est le rêve de personne. Et puis aussi d'être dans un geste de confiance au lieu d'être dans un geste de méfiance, quoi. C'est-à-dire que la médecine, oui, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses formidables aussi. Donc peut-être que là, c'est formidable, ce vaccin qui est arrivé à toute vitesse. Voilà, faut mettre plutôt de la lumière en avant dans nos esprits plutôt que de l'ombre.
Voilà, Stanislas Nordet, directeur du Théâtre National de Strasbourg. Il répondait à Anne Lamotte. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Toujours instable sur la majeure partie du pays. Seules les régions allant du sud de la Garonne vers la Grande Bleue jusque vers les Alpes bénéficieront d'un ciel bien dégagé. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Contre